Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet.
Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux et si fidèles pour ce qui va être les débuts de mon chant du cygne, puisque c'est ma dernière année d'enseignement au collège. Je m'excuse aussi pour ceux qui ont un peu de mal à trouver de la place, parce que l'année dernière, enfin comme vous savez, l'année dernière on m'a changé d'amphi. L'amphi que j'avais avant était plus grand, mais il y a actuellement une grosse pression sur les mètres carrés au collège, donc j'ai dû accepter ce changement. Voilà, alors pour le cours de cette année, j'ai annoncé comme titre aux origines du Khorasan médiéval, les interactions entre l'Iran sassanide et l'Asie centrale, 3e, 7e siècle de notre ère. Alors, c'est le Khorasan, on va revenir tout à l'heure sur la définition, disons en gros, c'est Khorasan, c'est le pays du soleil levant, c'est-à-dire que c'est l'est de l'Iran, mais pris au sens très large, pas au sens politique actuel, bien qu'il y ait actuellement en Iran une province du Khorasan. Alors, ces questions étaient abordées, mais sous d'autres angles. Hein. Lors de deux cours précédents auxquels je vous conseillerais donc de vous référer, puisque c'est l'annuaire du collège est en ligne, hein. Il y a eu un cours en 2016-2017 sur, disons, la situation des villes de l'Asie centrale entre le 4e et 7e siècle, c'est-à-dire, en fait, la période que je vais traiter aujourd'hui. Et puis un autre cours en 2018-2019 sur la problématique de l'islamisation de l'Asie centrale, qui est, disons, à l'aval de ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, cette année, on concentrera l'attention plus spécifiquement sur la composante sassanide, l'action... l'Empire sassanide, donc le grand empire qui était à l'ouest de l'Asie centrale, l'action militaire, politique et culturelle de cet empire qui, pendant toute sa durée, a été l'horizon le plus direct et le plus pesant de l'histoire de l'Asie centrale. L'Inde, la Chine, ayant joué aussi un rôle important, mais tout de même pas au même niveau d'interaction politique. Le choix que j'ai fait de ce sujet pour cette année est en liaison avec la venue en mai, sur invitation donc du collège, du professeur Touraj Dariahi, éminent représentant de l'école historique irano-américaine, on pourrait même plutôt dire irano-californienne, qui viendra donner plusieurs cours justement sur l'Iran sassanide. Alors, j'ai pensé que ça se combinerait bien. Alors, sur la question donc que j'aborde, il faut tout de suite dire que la documentation et les problématiques ont beaucoup évolué très récemment et sont même en train d'évoluer. J'ai un peu de mal à suivre ce qui paraît jour après jour. Alors, pour ce premier cours, on va se positionner sur un belvédère, un belvédère tardif, c'est-à-dire, en gros, les 9e et 11e siècles. C'est-à-dire que l'apogée des processus d'hybridation culturelle irano-centra-asiatique, qui ont commencé bien avant et que nous examinerons cette année. Le point d'arrivée. D'abord, qu'est-ce que le Khorasan ? Alors, on a, voilà. Du point de vue administratif, c'est l'une des quatre grandes divisions administratives qui ont été instituées en Iran au VIe siècle, sous le règne de Khosrow Ier. Donc, vous avez ici les quatre grandes régions. Kustekhora, la région du Khorasan, donc le soleil levant. Alors, vous voyez tout de suite que ça englobe une partie de l'Iran actuel, une partie de l'Afghanistan et une partie de trois républiques ex-soviétiques, le Turkménistan ici, l'Ouzbékistan et aussi le Tadjikistan. Au sud du Khorasan se trouve la division Nemrouz du Midi. Voilà, avec notamment qui tourne beaucoup autour de la grande région historique du Sistan. Au sud, alors pourquoi est-ce qu'elle a écrit Kusti Nemrouz, en fait, Kusti Nemrouz a parfois débordé très très loin jusqu'à l'ouest. Et jusqu'à la zone, la région de la capitale, Ctésiphon. Pas jusqu'à Ctésiphon quand même, jusqu'au Fars, centre historique de l'Empire Sassanide, point de départ historique de l'Empire Sassanide. Et puis se trouve au nord-ouest deux autres grandes régions. Le côté Khwarofran du couchant, c'est-à-dire ça commence en fait avec la capitale Ctésiphon et la Mésopotamie septentrionale jusqu'aux zones frontières avec l'Arménie et l'Empire romain, et puis tout à fait au nord-ouest l'Azerbaïdjan. Qui a encore gardé le même nom, puisque ses héritiers politiques actuels sont la République ex-soviétique d'Azerbaïdjan et par ailleurs la région iranienne de ce nom. Donc voilà, le Khorasan se positionne ici et vous voyez tout de suite qu'il a des frontières naturelles assez bien marqué, puisque la barrière montagneuse de l'Hindou Kouch au sud, et côté de l'ouest, côté ouest, côté Iran, le grand désert du Kavir, et côté nord, les grands déserts des sables rouges qui séparent des régions plus au nord. Alors, l'âge d'or du Khorasan, donc ce qui est considéré dans l'histoire comme vraiment son âge d'or, c'est les 9e, 11e siècles. Époque de l'islam classique. À cette époque, donc, le Khorasan est un centre économique absolument majeur du califat et surtout une grande synthèse culturelle extrêmement brillante qui a marqué pour toujours la culture islamique. Cette synthèse est en surface arabo-persane, mais en profondeur, en fait, elle a trois composantes. Deux composantes étrangères, la composante arabe, qui a apporté l'islam, et la composante iranienne occidentale. Et elle a une composante locale, qui est la composante iranienne orientale, héritière des cultures de l'Asie centrale préislamique. Alors, il faut dire que dans la grande synthèse du Khorasan, l'importance de la composante locale n'a été vraiment pleinement reconnue qu'à partir du moment où on a découvert la civilisation sogdienne, l'art de la sogdienne, la civilisation sogdienne, avec les peintures de Penjikent, et ça s'est fait dans les années 60. Donc l'Asie centrale était, le Khorasan était l'une des deux principales assises économiques et culturelles du califat abbasside, l'autre assise étant l'Irak. Bien. Mais en fait, la domination abbasside n'a pas duré très longtemps dans le Khorasan, puisque elle cesse de fait en 822, assez peu de temps après la mort du grand calife Harun al-Rashid, cesse de faire en 822 sous le calife al-Mamoun avec la dynastie locale des Tahirides, et puis surtout en 875 avec l'arrivée d'une dynastie beaucoup plus autonome et aux racines locales, qui est la dynastie des Samanides, qui, tout de même, jusqu'au bout, reconnaissait évidemment la supériorité du calife. Ils reconnaissaient tous la supériorité du calife, dont ils étaient très attentifs à en recevoir des marques d'honneur, parce que c'était le pourvoyeur de la légitimité. Bien. Mais enfin, les Taïrides ont continué à envoyer des impôts à Bagdad. Pour les Samanides, ça a été un peu plus compliqué. Alors, brièvement, j'ai récapitulé ici la chronologie politique. Donc voilà, 750-819. L'Asie centrale est administrée depuis Merv par les gouverneurs du calife abbasside de Bagdad. 750, début de la dynastie abbasside. 819-999, des dynasties de gouverneurs issus de la noblesse locale islamisée s'émancipent, tout en reconnaissant formellement l'autorité du calife. Les Tahirides, les Samanides, capitale à Boukhara à partir de 874. Grand essor économique et culturel, résurrection de la langue persane. Alors, on va en parler évidemment beaucoup plus en détail. 999-1157, troisième phase, l'émergence des premières dynasties turques musulmanes, qui vont malgré tout se revendiquer héritières des Samanides. En Transoxiane, nouveau nom de la Sogdiane, et au-delà vers l'Est, bon, les Karakhanides, Samarcande devient une de leurs principales capitales. Du côté plus à l'ouest, du côté de Merv, donc à partir de 1140, les Seldjoukides, qui vont jouer un rôle à l'échelle de l'Iran, généralement compris, plus important que les Karakhanides, puisqu'ils vont le conquérir. Progressivement, l'Iran, la Syrie, l'Anatolie, et puis donc l'adversaire qu'affronteront les croisades, les croisés, au départ, ce sont les Seldjoukides. Dans la partie orientale de leur empire, leur grand homme est Sultan Sanjar, qui rebâtit une nouvelle Merve centrée sur son mausolée. Bon, à la fin du règne, son règne, ça se passe pas, oui. Les Turcogous font retomber le pays, enfin le pays central des Seldjoukides, c'est-à-dire l'actuel Turkménistan, dans le nomadisme. Et puis alors, troisième cas de figure, au Khorezm, donc loin au nord, j'étais souvent amené à parler du Khorezm dans mes cours des années précédentes, pays au sud de la mer d'Aral, les gouverneurs des Seldjoukides s'émancipent et s'étendent. C'est la dynastie des Khorezmchas, en bénéficiant de la réorientation de la route de la soie en direction des steppes russes, j'avais ajouté déjà. Bien. Voilà, alors, expression cartographique, ce sont des cartes un peu compliquées, mais excellentes, très très bien documentées. C'est issu du meilleur atlas historique existant sur l'Asie centrale, qui est l'atlas de Youri Breguel. C'est un travail absolument remarquable. Donc vous voyez, milieu du 8e siècle, dont arrivée des califes de Bagdad jusqu'à la fin du 9e, arrivée des Samanides. Le Khorasan est ici. Califat abbasside de plus en plus théorique. Mais en réalité, voilà, émergence des Samanides. Voilà, alors ça pousse dans toutes les directions, y compris théoriquement au Khorezm. Mais côté de l'Est, l'expansion est à ce moment-là bloquée. Disons au nord du Pendjab, et puis également vers la Chine, c'est bloqué en fait à partir de la zone de Tashkent et du Fergana, et ça ne bougera plus. Alors, deuxième carte pour montrer comment les choses évoluent, 10e siècle, Samanide, Karakhanide, etc. Donc, l'émergence de la nouvelle dynastie, des premières dynasties turques musulmanes, les Karakhanides, dont on disait qu'ils étaient culturellement beaucoup moins brillants que les autres. Ils sont un peu décrits comme des ploucs dans les sources, mais les sources qu'on a sur eux proviennent presque exclusivement de leurs adversaires. En réalité, l'archéologie est en train de montrer qu'ils n'avaient pas à rougir de leurs activités culturelles. Ils démarrent en fait du côté de l'actuel Xinjiang, enfin du côté de Kashgar. Et puis peu à peu, vous voyez, là, hop, ils s'étendent, ils attrapent Samarcande, Boukhara, ils éliminent les Samanides, mais à ce moment-là, commencent à émerger d'autres pouvoirs à l'ouest. Et puis alors, dernière carte, début 11e siècle, alors voilà, l'une des grandes que je n'ai pas mentionnée dans ma chronologie précédente parce qu'elle était centrée plus au nord, un des grands empires héritiers, c'est les Ghaznévides, beaucoup centrés en fait sur l'Afghanistan actuel, et ils attrapent le Khorasan, et puis les Seldjoukides commencent à apparaître au nord et vont les éliminer. Enfin, vous voyez donc, dans le détail, quand on va voir les, c'est d'une extraordinaire complication. Ces cartes sont le reflet d'une réalité politique qui était très mouvante. Alors, la prise en compte du facteur local dans la vraie prise en compte du facteur local dans la brillante civilisation du Khorasan médiéval s'est faite progressivement. Les premiers à l'avoir mis en valeur, c'est les Russes. On a la synthèse absolument extraordinaire pour son époque de Bartol dans 1907, le Turkestan jusqu'à l'invasion mongole. Il a écrit avant qu'on redécouvre la civilisation sogdienne, la civilisation du Khorezm, etc. Mais il y accédait uniquement par des sources islamiques ultérieures et puis des sources chinoises, mais il avait quand même globalement compris l'importance de cet héritage. Mais la vraie première prise en compte de l'apport de la science soviétique à la redécouverte en Occident, la vraie prise en compte de l'apport de la science soviétique à la redécouverte de la composante Asie centrale dans la civilisation persane médiévale, c'est le livre de Richard Fry, The Golden Age of Persia, paru en 1975. Un tout petit extrait qui résume très très bien sa pensée, que je traduis, donc la culture néo-persane fut une fusion du neuf et du vieux, mais dans un cadre islamique. Cette nouvelle culture est venue de l'Est et elle a tout balayé devant elle. À mon avis, c'est l'histoire de la véritable émergence de l'Iran moderne. Et ce sont les raisons pour lesquelles cet Iran moderne a d'abord pris, cette émergence s'est d'abord située à l'Est plutôt qu'à l'ouest, et pourquoi aujourd'hui il y a un Tadjikistan à la place d'une Sogdiane moderne. À l'Est, l'Est a ouvert la voie pour l'avenir, tandis que l'Ouest s'efforçait de respecter un passé solide, un passé figé, et le cours de l'histoire fut inévitable. Ce livre a entraîné un scandale en Iran. D'une campagne de presse, l'auteur était menacé d'expulsion parce que on se situe bien dans les dernières années de la dynastie Pahlavi et ce qu'il proposait là attaquait de front l'un des dogmes du nationalisme iranien, qui était que l'Iran était entré dans le malheur avec la conquête arabe et avait commencé à en sortir, en gros, à partir de l'époque safavide, parce qu'à ce moment-là émerge le chiisme, qui est une renationalisation iranienne de l'islam. Donc, voilà. Et la nation iranienne, durant tous ces siècles, entre la conquête arabe et l'époque safavide produit certes de très brillants accomplissements, mais la notion même d'Iran est plus ou moins occultée. Et alors, ce qu'on reprochait beaucoup à Fry, c'est d'avoir situé l'apparition de l'Iran moderne précisément dans la période de la domination arabe. Le sous-titre de son livre, c'est « The Arabs in the East », ce qui pouvait paraître insultant. Je pense que l'Iran actuel, enfin le régime actuel de l'Iran n'a pas complètement répudié cette vue nationaliste ancienne qui a été en fait revitalisée au moment de la guerre contre l'Irak. Alors récemment, plus récemment, un livre dont j'ai déjà été amené à parler ici, qui n'est bon. Le livre de Frederick Starr, Lost Enlightenment, Central Asia's Golden Age, From the Arab Conquest to Tamerlan. Alors, en fait, il reprend le titre de Fry, the Golden Age of Persia, pour le début. Mais il le poursuit plus loin. Voilà. Fry ne va pas jusqu'à Tamerlan, lui, il inclut l'époque timouride. Bon, c'est pas un livre, je dirais, c'est un livre semi-scientifique, fondé sur une grosse documentation, notamment il lit le russe. Donc, il lit le russe, mais je suis pas sûr qu'il lise le persan, bien, ni l'arabe, mais il lit le russe. Et il s'est informé aussi auprès de gens, des savants les plus compétents. Comme il dit lui-même dans son introduction, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que j'avais envie de lire un livre sur le sujet. Voilà, bien. Et je pense que c'est assez réussi parce qu'il y a une masse considérable d'informations assez bien à jour. Son idée, les lumières perdues. Voilà, c'est on parle de des lumières chez nous, des lumières du XVIIIe siècle. Et pour lui, enfin pas seulement pour lui d'ailleurs, il y a eu des lumières. Il y a eu deux siècles des lumières en Asie centrale au Xe, XIe siècle. Lumières à la fois culturelles et scientifiques, et que ces lumières ont été perdues, et pourquoi ont-elles été perdues. Antoine Lilti, titulaire donc de la chaire d'études de la chaire sur les lumières au Collège de France, m'a fait le grand plaisir de citer ce livre dans sa leçon inaugurale au Collège. Alors, on peut aussi, évidemment, maintenant, pour, disons, le visuel, l'appréhension visuelle de la grandeur du Khorasan médiéval, il y a le catalogue de l'exposition du Louvre, qui s'est tenue il y a 2 ans, avec beaucoup plus des photos, où on reproduit beaucoup plus d'objets qui n'en a été exposé à l'exposition, avec des notices, plus fouillées que ce qu'on trouve d'habitude dans ce genre de catalogue d'exposition internationale. On a ce catalogue donne très bien à voir ce qui se passe à Samarcande, ce qui se passe à Boukhara. Mais il y a eu aussi, bien sûr, d'autres cités, d'autres phares culturels, d'autres villes importantes, non incluses dans le catalogue parce qu'elles sont en dehors de l'Ouzbékistan, hein, par ordre d'émergence. Ça, c'est mon cours d'il y a quelques années où j'ai essayé, j'ai gribouillé pour essayer de montrer les prises de relais successives des grands centres scientifiques. On a eu donc évidemment Samarcande et Boukhara au Xe siècle samanide, mais c'était précédé par une cristallisation culturelle importante à Merv, on va revenir là-dessus, à Balkh, en Bactriane. Au Xe siècle, on a aussi Nishapur, n'est pas à proprement parler, ne fait pas à proprement parler de l'Asie centrale, mais faisait partie du Khorasan. Et en fait, Nishapur, pendant plus de 2-3 siècles, sous les Taïrides et les Samanides, fait partie du même continuum culturel que Samarcande et Boukhara. On ne peut pas distinguer entre la céramique de Nishapur et la céramique de Samarcande, par exemple. Bien, voilà. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de cet âge d'or? Bon, je vais en énumérer quatre. La prospérité économique, la fécondité scientifique, la créativité monumentale et artistique et le problème identitaire. Alors, prospérité économique, on a à cette époque une apogée de l'agriculture irriguée. Alors, on cite toujours, et je le fais souvent, le texte extrêmement lyrique du géographe voyageur Imre Okral qui décrit Samarcande. Il sait plus comment s'arrêter. Le chef du Souk des Samarcandes, du haut de cette citadelle où je suis monté, on jouit du plus beau spectacle imaginable tel qu'un amateur peut en rêver. Des arbres verdoyants, des châteaux resplendissants, des ruisseaux aux cours rapides et des cultures brillantes. Il n'y a pas d'espace dont l'œil soit rassasié, pas de jardin dont la beauté ne fasse plaisir à voir. L'ensemble est divisé en carrés bien délimités, la splendeur en est infinie. Quand on monte aujourd'hui à la citadelle de Samarcande, on voit surtout des toits en tôle. Mais le tableau que donne Imre Okral est parfaitement validé par l'exploration archéologique de la zone. Il décrit exactement ce qu'un voyageur pouvait voir en montant. Les cyprès ont été bien taillés de façon à former les figures les plus curieuses, des animaux comme des éléphants, des chameaux, des bœufs, des bêtes sauvages affrontées. Ça peut paraître un peu délirant comme description, mais les archéologues au bord des grands bassins de la ville du site de Samarcande ont ramassé des brindilles taillées de cyprès. Donc c'est absolument authentique. Quel gouffre pour les fortunes, quel coup d'œil, quel gouffre pour les fortunes, quel spectacle propre à subjuguer les cœurs des humains. Ajoutons les cours d'eau rapides, les étangs, etc. D'exquis lieux de repos, des pavillons, des belvédères. Ce sont des demeures magnifiques, de superbes salons de réunion qui témoignent de la hauteur de vue des princes d'autrefois. Quel prince a-t-il en vue? Peut-être les princes d'avant l'islam. Mais ça peut être aussi l'aristocratie samanide, hein, puisque il écrit à un moment. Bah, il écrit en fait non. Quand il écrit, les samanides sont encore là. Les habitants sont de belles qualités. Les fortunes ont diminué parce qu'ils sont très dépensiers. Bon, point de concentration des esclaves. Les meilleurs esclaves sont ceux qui ont reçu leurs éducations à Samarcande. C'est ça qui va tuer le royaume samanide, parce qu'ils vont déléguer leur armée à d'anciens esclaves, ça, en fait préfigurateurs des mamelouks, d'anciens esclaves formés à la vie militaire, qui vont devenir des Turcs, qui vont donc accaparer les postes de l'armée et vont finir par les flanquer dehors, avec au sud les Rasnévides et au nord les Karahanides. Voilà, en se plaçant sur une montagne au-dessus du fleuve Sogd, on aperçoit des champs continus verdoyants, plus d'un palais au mur d'une belle hauteur. Mais dans la structure de cet ensemble, il est rare qu'apparaisse un vide dans la verdure ou un terrain en friche ou même désert. C'est exactement ce que nos historiens aujourd'hui du XIIIe siècle ou du XVIIIe siècle chez nous appellent le monde plein. C'est un concept de l'école historique française qui a été proposé pour ces siècles et c'est exactement ça. C'est le monde plein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un coin qui ne soit exploité. Bien. Alors, à côté de l'agriculture irriguée, une assise économique très importante était le commerce à longue distance. Alors, oui, la route de la soie, qu'est-elle devenue? c'est plus tout à fait les beaux jours d'autrefois, parce que la Chine a eu tendance à se fermer à partir de la fin du 8e siècle, et le grand commerce est en fait réorienté plutôt vers l'ouest, c'est-à-dire le cœur du califat, et vers le nord, hein, par le Khwarezm. On nuance maintenant ce constat dans les dernières recherches, celles d'Ilnoza Douturayeva et d'Étienne de la Vessière, montrent que le commerce avec la Chine est en fait le commerce terrestre avec la Chine, puisque le commerce, grand commerce maritime ne viendra que plus tard. Le commerce terrestre avec la Chine est resté plus actif qu'on ne l'avait dit. Alors, certains secteurs de l'artisanat innovent puissamment, et ça fait partie des premières choses qu'on remarque dans les musées. La magnifique céramique à glaçure qui n'existait pas à l'époque préislamique. La céramique beaucoup de choses sont très belles à l'époque préislamique, mais la céramique, elle est vraiment moche. Bien. Ce sont des techniques qui ont été importées d'Irak à la fin du 8e, début 9e siècle. Alors, ça n'atteindra pas le niveau de splendeur de la céramique à glaçure de l'Iran, l'école de Kashan, bien sûr l'école de Rey, ce qu'on appelle les Minoï, mais ça en approche. Et parfois ça le limite. Alors, autre grande innovation, le verre. Curieusement, ils fabriquaient du verre en Bactriane, hein, plus au sud, et en Sogdiane, les seuls verres qu'on trouve avant l'époque islamique, ce sont les flacons des parfums qu'on a importés. C'est pas du verre fabriqué sur place. Et soudainement, à partir de la fin du 8e siècle, on se met à avoir des fours à verre un peu partout. Je peux vous dire par expérience, ayant fouillé à Samarcande, que quand nous faisions des coupes stratigraphiques, dès qu'on voit briller des petits éclats de verre, on dit « tiens, on est dans l'islam ». Il y a deux choses qui nous montrent qu'on est dans l'islam. On produit du verre et on se lave. L'apparition des hammams commence juste à ce moment-là. C'est vraiment des marqueurs culturels très forts. Bien, alors là, ce sont donc des innovations techniques qui ont été apportées par des technologies importées d'Irak. Les Sassanides, eux, avaient connu la céramique à glaçure et ils avaient également connu le verre. Mais à leur époque, ça ne s'était pas diffusé au cœur de l'Asie centrale. Alors, d'autres techniques prolongent des traditions locales préislamiques. Les procédés de construction, de la brique crue, brique et aussi en briques cuites, le bois ouvragé qui reste en fait qui reste très traditionnel et jusqu'à pratiquement l'artisanat contemporain. Au début à l'époque soviétique, ils ont eu l'intelligence de revivifier les ateliers traditionnels du bois et on voit que c'est quelque chose qui a duré. Quand vous visitez la grande mosquée de Riva, dans son état actuel du XVIIe siècle, vous avez des colonnes qui viennent probablement d'un palais préislamique à côté de colonnes fabriquées sur place au XVIIe siècle. C'est resté un art absolument magnifique du bois sculpté avec des portes, des mihrab, tout ça a été trépillé, c'est dispersé dans toutes sortes de musées, mais actuellement une de nos étudiantes, France Aurin, est en train de terminer une thèse où elle rassemble les morceaux dispersés de tout cet artisanat du bois pour l'époque timouride. Oui, elle va bientôt aboutir. Bon, bien sûr, les textiles, j'insiste pas, inspirés de l'Iran sassanide, des textiles à motifs animaux, se poursuivent à l'époque islamique ancienne. On a une continuité très forte avec l'époque samanide. Donc ça, c'est le premier point, prospérité économique. Deuxième point, la fécondité scientifique. Là, j'insiste pas, j'en avais beaucoup parlé en 2018-2019, avec donc notamment ces essais. Ça a été beaucoup traité par Starr dans son livre. On a des au fur et à mesure que des dynasties locales, après la rupture avec le califat, émergent et s'enrichissent. Tout prince qui se respecte doit se construire un observatoire avoir un cercle de savants. Et les biographies de ces savants les montrent en réalité à la fois polygraphes et nomades. Ils écrivent sur tout. Ils écrivent aussi sur des choses auxquelles ils ne croient pas, mais qui plaisent au prince, comme l'astrologie. Ils se déplacent au fur et à mesure des patrons qui émergent. Biruni est né ici, au Khwarezm, et il a une vie très nomade qui s'est terminée à Razni, ici. Avicenne, d'une famille de Balkh, naît à Boukhara et finit par aller en Iran. Cette fécondité scientifique a récupéré, est en partie sans doute appuyée sur un niveau qui devait déjà être assez bon à l'époque pré-islamique, puisque par exemple on pense maintenant que la trigonométrie a commencé à se développer avec l'irrigation, donc ils avaient des savoirs empiriques ou peut-être même plus développés, mais les grands traités qui ont été recopiés, adaptés, imités, se sont évidemment constitués à Bagdad au début de la dynastie abbasside avec le Dar al-Hikma du calife al-Mamoun, qui lui-même récupérait un double héritage, un héritage grec et un héritage sassanide. Héritage grec filtré aussi par les savants syriaques. Alors, troisième point, la créativité monumentale et artistique. Alors là aussi, dans la construction monumentale, bon, bien sûr, il y a des choses qui sont spécifiquement islamiques dans le plan des mosquées, liées directement aux contraintes du culte. Mais dans certains cas, on détecte un substrat local. Alors l'exemple qui a été le plus débattu, c'est celui des madrassas. Donc les collèges d'études, les collèges religieux, c'est la madrassa, c'est quelque chose qui apparaît en Iran à partir du début du XIe siècle, avec le grand vizir Nizam el-Mulk, qui est lui-même héritier en fait de l'école administrative samanide. Ça apparaît au XIe siècle. Or, on constate maintenant que certains plans de monastères bouddhiques de 7e, 8e siècle semblent préfigurer les madrassas. Et ce qui est intéressant, c'est que les monastères bouddhiques, c'est pas seulement des lieux de culte, ce sont des lieux d'enseignement. Donc il y a continuité à la fois architecturale et fonctionnelle. Alors vous voyez ici le plan du monastère d'Adjina Tepe, actuellement au Tadjikistan. Un monastère tardif, il est vraiment contemporain de la conquête islamique. Alors j'ai marqué avec des points bleus les quatre iwans, les quatre grands enfoncements sont la marque vraiment caractéristique des madrassas. Beaucoup de madrassas qu'on voit aujourd'hui ont encore les quatre iwans. Alors ça a été réutilisé après dans certains cas quand par exemple on enseignait les quatre grandes écoles juridiques, parce que l'enseignement de chaque école était prenait place sous l'un des iwans, mais en fait c'est antérieur. Alors vous avez les quatre iwans, les cellules, ouais, ici, les temps de partie, et alors même l'association du lieu d'enseignement et du lieu et du tombeau. Ici, la madrassa de Raja Mashhad au Tadjikistan, sans doute l'une des plus anciennes. Elle est probablement même, elle est probablement pré-samanide. Vous avez le tombeau d'un saint homme ici, et le monastère bouddhique a le même principe, puisqu'il est en deux parties. La partie donc avec les cellules des moines, les katriwans, et le stupa, qui est en fait un tombeau. Le stupa, c'est le lieu qui abrite les reliques du Bouddha. Bon, là, on a quand même une continuité impressionnante. Alors, certains ont spéculé, l'attention sur la continuité entre madrassa et entre monastère bouddhique et madrassa a d'abord été attirée par Robert Hillenbrandt, et puis plus récemment, le grand historien, parfois quand même un peu échevelé, qui est Christopher Beckwith, s'est lâché. Il a fait paraître ce livre il tente de démontrer que la science islamique médiévale est sortie de la science bouddhique et qu'en réalité il y a eu continuité complète entre l'enseignement dans les monastères bouddhiques et l'enseignement des madrassas. Bon, je n'insiste pas parce que je sors de mon domaine de compétence, c'est juste pour vous montrer à quel point tout cela excite la recherche contemporaine. Alors, dernière question, c'est la question des identités culturelles, parce que il y a quand même un gros paradoxe auquel on se heurte depuis toujours. L'héritage linguistique et littéraire pose problème, car la renaissance de la langue persane comme langue littéraire au IXe siècle ne s'est pas produite en Iran. Elle a commencé à se produire en Asie centrale, après ce qu'on appelle, les savants iraniens parlent en Iran de 3 siècles de silence entre la fin de l'époque sassanide, quand le Pahlavi est parlé, écrit, etc. Et puis après, il se fige dans les écrits religieux, et l'arrivée de la poésie, de la littérature persane. Alors, on voit très bien qu'en Asie centrale, les 3 siècles de silence se réduisent à pas grand-chose. Mais pourquoi est-ce que la résurrection du persan s'est faite non pas en Iran, mais en Asie centrale, où, je vais revenir là-dessus, on n'avait pas parlé l'ancêtre linguistique du persan. On parlait d'autres langues iraniennes. C'est un problème majeur. Le néo-persan est désormais écrit en caractère arabe. Alors, il y a eu des tentatives au début de l'écrire en hébreu. Plutôt dans les milieux juifs, mais pas seulement. Les premiers essais d'écriture de ce qu'on appelle le néo-persan, c'est ce qu'on appelle le judéo-persan. Ça nous donne le néo-persan le plus archaïque, si on veut. Et après, à partir du 9e siècle, enfin, on sait que ça commence un peu au 8e, on emploie les caractères arabes. À partir du 10e siècle, le néo-persan va d'abord s'imposer dans l'administration et la cour des Samanides, à Boukhara et Samarcande. Et il va progressivement s'imposer, mais par étapes. Attention, même à l'Est, l'arabe a longtemps résisté et brillé, mais dans des domaines qui se sont trouvés de plus en plus spécialisés, c'est-à-dire principalement 2 domaines. L'exégèse religieuse, évidemment, bien qu'il y ait eu très tôt des commentaires persans du Coran, et par ailleurs, la science. Bien. L'arrivée du persan dans le domaine de la science s'est faite assez tardivement. Les langues iraniennes locales se sont trouvées Je montre un peu, bon, dans le, pour ce qui est des continuités, monumentales et artistiques, quelques exemples tirés des peintures qui montrent que même si on n'a pas beaucoup de jalons, on voit quand même que les grandes écoles de peinture pré-islamiques ont subsisté et ont laissé des héritages à la peinture islamique ancienne de l'Asie centrale, fresques de Nishapur, probablement du Xe siècle, c'est vraiment assez proche de ce qu'on trouve par exemple à Penjikent, à l'époque seldjoukide, à l'époque gaznévide, plus au sud en Afghanistan, les peintures de l'Ashkari Bazar avec les rangées de pages, pour finir, là encore, on manque de jalons, mais on voit très bien qu'il y a une continuité. Samarcande vers 1200, ce que notre mission a trouvé, les extraordinaires peintures des pavillons des pavillons princiers karakhanides. Voilà, le roi, l'émir tenant une flèche, et c'est très proche de ce qu'on a dans des miniatures produites en Irak à la même époque. Alors, revenons à la question des langues. C'est une tentative de cartographie, qui me satisfait pas personnellement complètement, mais bon, des langues pré-islamiques de l'Asie centrale. Donc, plusieurs sont des langues iraniennes, hein, le bactrien. Parlé donc en bactriane, principalement nord de l'Afghanistan actuel, le sogdien, c'est une des zones d'extension, la sogdiane, donc on va appeler à l'époque islamique la transoxiane, Samarcande, Boukhara, mais beaucoup plus loin aussi, puisque les sogdiens ont disséminé des colonies, par exemple dans l'actuel Kirghizistan, le khorasmien, en situation insulaire au sud de la mer d'Aral, et puis donc le Pélévi, langue de l'Iran sassanide. Il faut savoir que du point de vue de la classification linguistique, ces quatre langues, en fait il y en a une cinquième, le Saka, qui est en gros parlé à Khotan, qui est en dehors de notre zone. Une, deux, trois, quatre. Ces quatre langues, khorasmien, sogdien, bactrien, saka, appartiennent au rameau dit iranien oriental, qui a certaines spécificités grammaticales, notamment grammaticales, par rapport au rameau iranien occidental, auquel appartient le Pélévi, et puis le persan. C'est vraiment et du rameau iranien oriental, aujourd'hui il reste pas vraiment grand chose. La seule langue du rameau iranien oriental qui est aujourd'hui beaucoup parlée et même en expansion, c'est le pachtou d'Afghanistan, qui semble avoir été qui semble s'apparenter en fait au Saka, langue des qu'on trouve dans plus à l'est. Bon, alors plus encore à l'est, on a les langues tocariennes qui sont indo-européennes mais pas iraniennes. Voilà. Bon, c'est en gros le tableau qu'on peut faire. Alors, ces langues iraniennes locales, je viens de le dire, ont été très tôt marginalisées. Ont cédé devant l'arabe et le persan. C'est de plus en plus surprenant à comprendre au fur et à mesure que nous progressons dans notre connaissance des littératures locales anti-islamiques. Ces littératures et la manière dont on peut en partie les récupérer par les arts figurés, ça a été le sujet du cours de l'année dernière. On peut dire que les élites nouvellement islamisées ont abandonné leur langue. Elles les ont conservées, surtout en situation de diaspora, pas chez elles. Exemple, le sogdien, qui a été quand même la grande langue de la route de la soie depuis le IIIe siècle. Il est abandonné sur place avant même le milieu du 8e siècle. On ne l'écrit plus. Alors, il survit jusque vers l'an 1000, quand même à Samarcande, mais dans une niche très particulière. Il est la langue hiératique de la communauté manichéenne. On a trouvé des correspondances des manichéens de Samarcande avec les manichéens de Tourfan. Mais c'est tout. Il survit, alors en diaspora, il survit dans des communautés multireligieuses et multilinguistiques, au Xinjiang actuel, donc Tourfan, et aussi au Kirghizistan actuel, le pays qu'on appelle le Semirechye, le pays des sept rivières, qui avait accueilli des colonies soviétiques. Là, on a encore des témoignages, au début du XIe siècle. Voilà. Après quoi, ça passe aux Turcs. Bien. En 742, alors pourquoi est-ce que le Sogdien est mort si vite ? Il a cessé d'avoir le support de l'administration. En 742, l'administration des Omayyades impose l'emploi de l'arabe dans la chancellerie du Khorasan, partout. Ce qui a fait disparaître la niche sociale qu'avaient conservé les scribes sogdiens. Et qu'ils avaient très bien conservé, puisque on voit très bien les documents du Mont Moug des années 720 montrent que la langue n'est pas du tout en train de dégénérer, que les procédés stylistiques, les procédés de chancellerie restent les mêmes, etc. Soudain, ça disparaît. Alors, le Bactrien, lui, il a vivoté un peu plus de temps dans l'usage officiel au sud, dans des petits royaumes enclavés dont on a retrouvé les archives. Rob et Juzjan, dont je vais être amené à parler plus tard. Là, il dure jusqu'en 757, c'est-à-dire à peu près 15 ans de plus qu'à Samarcande, que le Sogdien à Samarcande. Après quoi, la documentation passe soudainement à l'arabe. À Balkh, le Bactrien a sans doute disparu encore plus tôt. Mais Balkh est une ville de garnison arabe depuis 709. À un moment, ils sont passés au Pélévi, empruntés à l'Iran, et puis soudainement, ça passe à l'arabe. Alors, c'est un phénomène assez surprenant et spectaculaire. On voit par exemple dans des documents plus tardifs, récemment publiés, en train d'être publiés, les documents administratifs et comptables de Bamiyan, une archive qu'on a retrouvée récemment, qui est en train d'être publiée par Arezou Azad, professeur au Langzo, The Warehouse of Bamiyan, un extraordinaire lot d'archives en arabe et en persan. Et puis ça a été précédé par certaines archives en hébreu, puisqu'une partie de ces communautés descendait en fait de communautés juives. C'est le milieu des gros propriétaires, paysans et de commerçants, administrateurs de la région de Bamiyan. On pourrait penser quand même que là, et ces documents datent du 12e, début 13e siècle. On pourrait se dire que là, il y a quand même eu un héritage de la langue bactrienne. Ben, apparemment, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de trait linguistique hérité du bactrien. J'en ai cherché, j'en ai pas trouvé. Peut-être on va en trouver. Et il y a certaines continuités dans les formules de chancellerie, mais pas du tout dans la langue. Bon. Alors, il y a une exception, il y a un endroit où la langue écrite a tenu. C'est le Khorezm. Mais évidemment, le Khorezm est en situation d'isolement. Hein. C'est pas par hasard. Le Khorezm est le seul des pays qui a gardé sa langue écrite. Et comme par hasard, c'est aussi le seul pays où la dynastie locale pré-islamique a réussi à se maintenir jusqu'au XIe siècle. Alors qu'il n'y en a plus ailleurs. Hein. Donc c'est très conservateur. Mais au Khorezm, où est-ce que le la langue a résisté, c'est pas dans de la littérature écrite, c'est dans des manuels juridiques à l'usage des cadis. C'est-à-dire que ce sont des gloses. Les formules en arabe sont glosées, ou en persan, en arabe, sont glosées en corasmien pour permettre aux cadis de communiquer avec des paysans qui ne parlent que leur patois. Et il fallait bien que si la justice devait être rendue, il fallait qu'il y ait une relative maîtrise de la langue locale par les cadis. Alors là, oui, ça a subsisté un peu. Alors, les langues parlées, moi, j'ai parlé des langues écrites. Les langues parlées ont survécu marginalement jusqu'à des dates difficiles à déterminer. On pense maintenant que le sogdien restait parlé dans les campagnes à l'ouest de Boukhara, peut-être jusqu'au XVIe siècle. On a quelques témoignages là-dessus. Mais d'une manière générale, les intellectuels locaux, même de souche locale, ne vont pas s'intéresser à la langue de leurs ancêtres. Et ou plutôt, ils vont lui prêter un intérêt folklorique. Alors je prends deux exemples. Le grand philosophe Al-Farabi, grand commentateur d'Aristote, c'était un sogdien. Il semble qu'il se soit intéressé à la musique sogdienne, mais pas du tout à la langue. Pas du tout à la langue. Il mentionne la langue sogdienne, mais comme ça. Biruni, au Khorezm. Biruni, lui, il devait connaître un peu la langue khorasmienne. Il en parle, mais il s'est intéressé aux antiquités de son pays. Il a écrit une histoire du Khorezm qui est perdue. Mais on n'a pas connaissance qu'il ait écrit quoi que ce soit en khorasmien. Il a noté le calendrier de son pays en khorasmien, la liste des fêtes, de manière assez estropiée. D'ailleurs, il le dit quelque part. Il dit le khorasmien, oui, ça va bien pour parler au bazar, mais sinon, si on veut, le persan, c'est bien joli, mais enfin, si on veut penser, il faut passer à l'arabe. Bien. Au Xe siècle, le géographe Moukrad Dassi, très intéressant, à propos de Samarcande, il signale une curiosité folklorique. Il y a un moulla qui connaît encore le sogdien. Au Xe siècle. Samarcande, capitale de la culture sogdienne deux siècles avant. C'est quand même une rupture assez considérable. Et on voit par exemple qu'il y a eu peu de passages. Dans le persan moderne, il y a en fait peu d'emprunts linguistiques est-iranien. On avait pensé, Henning avait identifié 25 à 40 mots sogdiens, c'est pas beaucoup, hein. Supposés du sogdien de Boukhara, parce que c'est pas tout à fait le sogdien qu'on connaît, ben maintenant on sait que c'était surtout du bactrien. 25 à 40 mots, c'est tout de même très peu. Donc, voilà, le vainqueur va être une langue qui a été au départ extérieure à la zone, donc le persan, sous sa variante néo-persane. Le vainqueur est en train lui-même d'être vaincu, hein, parce que depuis le XVIe siècle, le persan perd graduellement du terrain devant les langues turciques. Il n'est plus langue officielle qu'au Tadjikistan. Il reste parlé à Boukhara, il reste parlé à Samarcande, mais disons dans une situation défensive, puisque c'est pas du tout encouragé par les autorités. Alors, où s'est préparée cette victoire surprenante du persan de l'Ouest? Eh bien, on va en parler au cours suivant. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.